Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Dans le cadre de l'année France-Russie, en 2010, l'agence Culture France, l'opérateur du ministère des Affaires étrangères à ce moment-là, et les autorités russes ont invité une vingtaine d'écrivains à traverser la Russie de Moscou à Vladivostok. Ainsi, pendant presque trois semaines, entre mai et juin 2010, un groupe d'écrivains français a eu l'honneur de faire ce voyage mythique à bord du fameux Transsibérien. Ils ont parcouru 9 288 kilomètres à petite vitesse dans un wagon réservé à leur attention, baptisé Blaise Cendrars, sur cette ligne ouverte en 1891. À travers les visites officielles, au fil des arrêts, des rencontres inattendues, des paysages qui défilaient sous leurs yeux, un peu plus d'un siècle d'histoire et de culture, et même bien au-delà, s'est révélé dans leur carnet de voyage, les interrogeant sur la Russie d'hier comme celle d'aujourd'hui. Un an et demi plus tard, les livres de certains d'entre eux paraissent. Avec nous dans l'émission Au fil des pages, Daniel Salnave, qui offre à ses lecteurs un nouveau livre, Sibir, Moscou-Vladivostok, mai-juin 2010, chez Gallimard. Elle a partagé cette expérience avec son confrère Dominique Fernandez de l'Académie française qui a écrit à son retour Transsibérien, paru chez Grasset, et que nous recevrons dans quelques jours sur ce sujet. Leurs deux livres, leurs deux carnets de voyage, sont tout à fait différents mais évoquent l'un comme l'autre l'histoire de la Russie, les sites d'autrefois, Ivan le Terrible, les Romanov, l'Union soviétique, l'enfer de ses bagnes, ses vieux croyants sur une terre sans limite. Mais au fond, qu'est-ce que la Sibérie qui a tant inspiré la littérature? Une part d'Europe? Une prison? Un sanctuaire? C'est le sujet de notre émission en compagnie de Daniel Salnave. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous à quelques jours de votre réception sous la coupole de l'Institut de France au sein de l'Académie française qui se déroulera très prochainement, le 29 mars 2012. Vous avez été élu au fauteuil de Maurice Druon le 7 avril 2011. Et donc, c'était après ce voyage en Russie, tout au long de la Sibérie. Alors, pour vous situer en quelques mots, vous êtes né en 1940, vous avez grandi à Angers, dans une famille d'instituteurs, vous avez été professeur de lettres classiques, mais aussi à l'université de Paris-10-Nanterre, et vous avez eu pour directeur de recherche Roland Barthes, vous avez connu Antoine Vitez. Vous avez travaillé avec lui et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, de romans, d'essais, de récits de voyage d'ailleurs, de pièces de théâtre, et pour lesquels vous avez reçu de nombreux prix. Alors pour n'en citer que deux, en 2005 vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre, et puis en 2008 le prix Jean Monnet de littérature européenne. Alors vous collaborez au Monde et à Marianne, et vous assurez également une chronique à France Culture tous les vendredis. Parmi vos livres, je veux quand même en citer, citons votre roman « Les portes de Goubiot » qui avait reçu le prix Renaudot en 1980, « Le principe de ruine » qui est un autre récit de voyage sur l'Inde, qui est un récit d'ailleurs un peu plus douloureux par rapport à celui-là, et puis « Un printemps froid »,« La fraga » également, un roman, « Castor de guerre » et « Dieu.com » qu'on évoquera aussi peut-être, puisque dans votre livre « Sibir », tous ces livres précédents font aussi par endroits surface. Et puis, pour ceux qui voudraient vous connaître encore davantage, et bien entendu, et vous avez un autre livre, on peut lire un autre livre qui est « La vie éclaircie », qui est un livre d'entretien dans lequel on entre dans votre vie, en fait, et vos idées. Pour l'heure, embarquons pour le Transsibérien. Alors, ce n'est pas votre premier voyage en Russie, ni votre premier récit de voyage. Donc, quelle définition, Daniel Salnave, donneriez-vous du voyage? Parce que c'est toute une expérience chez vous.
C'est toujours une double expérience. C'est évidemment faire l'expérience du monde, mais ce voyage peut être très lointain ou il peut être très proche. Et c'est en même temps une expérience de soi. Et je pense que souvent, le voyage est un grand révélateur. En plus, lorsqu'on voyage avec d'autres, comme c'était le cas sur le Transsibérien, il met à l'épreuve la capacité de vivre avec d'autres dans des conditions parfois un peu spartiates, d'une sorte de promiscuité, mais qui, au lieu de me peser, m'a plutôt rappelé des années d'enfance, ou les années où j'étais pensionnaire au lycée d'Angers, vers 12 ou 13 ans, et je m'y sentais bien à cause de cela aussi.
Une promiscuité aussi, le fait d'être enfermé dans le wagon, de partager pendant plusieurs jours.
Le fait de partager pendant plusieurs jours, puisqu'il faut voir quel était notre rythme. Le transsibérien, c'est une ligne. Sur cette ligne circulent en permanence dans les deux sens de nombreux trains, qui sont les trains de base russes. Ce n'est pas du tout l'Orient Express avec une décoration et un luxe et du champagne tous les soirs. Non, c'est un train de base. Nous étions, comme vous l'avez dit, dans deux wagons qui étaient décrochés à certaines stations. Et nous partions avec un petit sac à dos pour un jour ou deux visiter une ville. Puis nous reprenions le train pour un jour, deux jours, voire trois jours. Si bien que le voyage, au lieu de prendre les 6 jours et 7 nuits qu'il prend, si on fait en continu, a pris 3 semaines. Mais il s'arrête beaucoup. Nous sommes arrêtés dans 9 villes, mais je crois qu'il y a 900 gares sur le trajet du Transsibérien. Et selon les lignes, il s'arrête dans des stations parfois petites. Et à chaque fois sur le quai, c'est un vrai marché. Parce que la plupart des Russes qui voyagent ne vont pas au wagon-restaurant, mais ils s'approvisionnent au fur et à mesure sur le quai. On vend des poissons séchés, des gâteaux, des glaces, des boissons fraîches, etc.
Ok.
Alors, l'atmosphère très joyeuse.
Venez à vous aussi, même sans quitter le train, j'allais dire.
Exactement. Et cette alternance, donc très grande ville, parce que les villes où nous sommes arrêtés, qui étaient des villes souvent interdites jusqu'à la chute de l'Union soviétique, connaissent un développement prodigieux. Elles dépassent le 1 million d'habitants très souvent. Il faut bien penser que quand le Transsibérien y a été construit, il y a un peu plus d'un siècle, c'était des villages ou des petites villes de 2 ou 4 000 habitants. Et le Transsibérien est aussi grand, dans un style différent, mettons que la gare d'Orsay à Paris. C'est-à-dire qu'en pleine solitude, on peut imaginer ce que c'était.
Quelle est la ville qui vous a le plus marqué sur ce trajet-là?
Toutes les villes m'ont beaucoup touché,
mais
beaucoup
bouleversé. Mais à propos de grandes villes, de ces villes un peu différentes.
Probablement les deux qui m'ont le plus bouleversé, c'est Ekaterinbourg, qui est à la limite de la Russie et de la Sibérie, sur l'Oural, pour toutes sortes de raisons, y compris bien évidemment le fait que c'est le lieu où le tsar et sa famille ont été exécutés. Mais elle est passionnante sur le plan architectural, sur le plan historique. Mais dans les villes qui sont en développement, de la Sibérie, elle, puisqu'à partir d'Ekaterinbourg, on est en Sibérie. Celles qui sont en grand développement, Krasnoïarsk, qui est une ville qui connaît un développement énorme, et Irkoutsk m'a beaucoup touchée, parce que, d'abord, c'est une ville qui est déjà très loin de Moscou, 6000 km de Moscou, il y a 2 routes qui partent d'Irkoutsk, parce qu'on peut aller nulle part, en quelque sorte. Et elle a à la fois le souvenir de l'époque d'avant, elle existait. On pense à Michel Strogoff, puisque c'est là que doit se rendre Michel Strogoff pour mettre fin à une entreprise dangereuse pour le tsar.
C'est son but.
Et c'est aussi le lieu où étaient exilés ces familles de ceux qu'on appelle les décembristes, ces aristocrates qui se sont révoltés en 1825 et ont été déportés dans ces régions qui étaient totalement sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire très dures sur le plan climatique, peuplées de quelques colons russes, avec quelques populations autochtones qui commençaient, hélas, à être petit à petit refoulées ou à disparaître.
Ah, vous faites ressurgir même le portrait de ces familles
oui,
nobles.
Oui, parce que j'ai été très touchée par
et
eux.
Aussi les destins de ces femmes oui, qui les ont oui. accompagnées. Là, on sent la veine féministe, mais pas seulement.
Oui, mais pas
au-delà,
seulement, c'est vrai.
Il y a là, quelques
il y a une grande
destins tragiques.
Chez ces femmes. Voilà, et chez ces hommes. C'était des hommes et des femmes qui étaient promis à de grandes destinées. Ce sont les plus grands noms de l'aristocratie russe de l'époque. Et fait curieux que j'ai pu développer après ce voyage, c'est qu'ils étaient russes, ils avaient subi l'invasion de Napoléon en 1812. Mais ils avaient... Napoléon était l'ennemi de la Russie, l'envahisseur. Mais en même temps, il était le porteur, indirectement, des idées de la Révolution.
Dont ils s'étaient fait les
Ils l'ont en quelque sorte suivi, puisqu'ils ont fait la campagne de France. Ils se sont retrouvés à Paris en 1815. Et qui ont-ils rencontré? Les cercles libéraux. Ils sont revenus persuadés qu'il fallait faire une monarchie constitutionnelle et abolir le servage. Bien évidemment, ça s'est terminé dans le sang, ou par la pendaison pour quelques-uns, ou par le bagne pour les autres. Et les femmes, parfois leurs épouses, parfois leurs fiancées, parfois tout simplement leur maîtresse. L'une d'entre elles est une petite modiste ravissante qui n'avait pas la moindre intention d'épouser le prince. Mais quand il a été envoyé au bout du monde, elle a tout quitté pour le rejoindre. Elle était française et c'est un destin vraiment bouleversant.
Et ce qui vous a frappé aussi, c'était d'imaginer toute la culture qui était la leur et qu'ils ont réussi à maintenir dans ces espaces qu'on nous on imagine comme ça perdus.
Voilà.
On a quand même les clichés, nous, à Paris, quand on les lit.
Irkoutsk, c'est quand même le bout du monde. Et 20 ans après leur condamnation, dans les 10 dernières années, avant une amnistie relative, ils ont pu avoir une maison et non plus le bagne ou des cachots. Et puis cette maison a été démontée, reconstruite à Irkoutsk. Et dans cette maison, ils n'avaient pas beaucoup de champs libres tout autour, mais ils ont pu retrouver un peu d'argent. Ils ont fait venir des pianos, des tableaux.
La musique.
Ils sont devenus amis avec d'autres exilés, des Polonais qui ont été exilés, eux, par Catherine, c'est-à-dire un siècle et demi avant, et qui s'étaient installés là, qui parlaient le français, les Polonais. qui ont donc appris le français à ceux qui ne le connaissaient pas parmi les Russes, encore que les Russes parlaient, dans l'aristocratie, on parlait beaucoup français. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont fait un cercle. On faisait venir de la musique, de la poésie, mais les femmes et les hommes sont allés enseigner aux enfants des villages, y compris les filles.
Ça a dû beaucoup vous toucher.
Et ça m'a beaucoup touchée, oui. Mais ce qui est bouleversant, c'est que Marie Volkonskaya, qui est une des plus connues avec Pauline Trubetskaya, eh bien, à 45 ans, il y a un portrait d'elle dans la maison d'Irkout, où elle a l'air véritablement exténuée, et elle meurt peu de temps après. Les souffrances qu'elle a connues pour venir rejoindre son mari pendant les quelques mois de traversée de tous ces territoires, et sur place, l'ont usée. Elle dit qu'elle a souffert à un point inimaginable du froid. Et on peut, ça, quand il fait moins 40, on peut imaginer ce que c'est, et qu'on est mal couvert, mal protégé.
Ah, ils ont donc réussi à survivre dans cet univers très, très hostile, physiquement, mentalement, culturellement, et pourtant, la culture, l'éducation était une de leurs priorités quand même.
C'est tout à fait vrai.
Est-ce à dire que la culture peut survivre comme ça, dans des conditions extrêmes ? Est-ce que c'est un peu l'expérience de ce Transsibérien ? Parce qu'il y a aussi tout le bagne qui ressort tout
au long du trajet. Oui, parce qu'on a Dostoïevski au bagne. Dostoïevski, lui, non pas en 1825, mais un peu plus tard, est pris, d'ailleurs tout à fait injustement, dans une conspiration, les Petrachevski, qui s'inspiraient, eux, des décembristes. Il est envoyé au bagne, puis en résidence surveillée dans cette région, à Omsk, à quelques kilomètres de là où nous étions, et il dit, c'est une des expériences les plus fortes et les plus riches de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré le peuple russe, et les hommes qui sont au bagne et qui n'en sortiront jamais, et qui ont trouvé des formes de résistance. Un des plus beaux textes que je connaisse, c'est dans « Souvenirs de la maison des morts », Dostoïevski raconte la séance annuelle de théâtre, où tous ces hommes au visage couturé, qui ont souvent commis des crimes, ce ne sont pas seulement des politiques, ce sont aussi des droits communs, qui n'ont aucun espoir, qui tournent en rond, eh bien, avec le théâtre, tout d'un coup, quelque chose s'ouvre en eux, et c'est magnifique ce qu'écrit Dostoïevski à ce sujet.
Vous avez pu vous échapper, je crois, pour voir un spectacle, non ?
Alors, je l'ai rêvé. Dominique Fernandez s'est échappé davantage vers la musique, vers l'opéra, qui sont ses grandes passions. Moi, je me suis échappée à un moment avec un jeune universitaire de Krasnoïarsk, parce que je voulais voir les banlieues. Je me doutais bien que le centre-ville est toujours une vitrine dans tous les pays. Et je voulais voir tout autour. Alors, il y a de grands marchés, des sortes de marchés aux chinois, très souvent d'ailleurs, où on vend un petit peu de tout. Et j'ai toujours besoin d'aller dans ces endroits. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que je touche de plus près la réalité en allant vers ces endroits.
C'est commun dans tous vos récits de voyage, hein, cette proximité, cette envie d'aller vers les autres, au-delà de ce qu'on vous propose officiellement. Pourtant, c'est un voyage un petit peu officiel.
Oui.
Et vous avez tous, visiblement, réussi à dépasser ça sans grand problème.
D'abord parce que dans la journée, était possible, en même temps, diverses rencontres, donc on pouvait déjà choisir. Et aussi parce que, c'était variable selon les villes et c'est normal, dans chaque ville, des accompagnateurs ou des accompagnatrices nous étaient proposés et qui parfois ne demandaient pas mieux qu'en dire davantage ou nous montrer plus que ce qui était prévu parce qu'ils étaient contents. Et ça, c'est bouleversant. Il faut bien voir que nous ne venions pas comme André Gide dans un voyage officiel de l'Union soviétique et dont il est revenu avec ce livre magnifique « Retour d'Urs » et supplément « Retour d'Urs ». Mais le fait que nous venions, soyons des Français qui venaient vers eux, les touchait profondément. Et j'avais non pas honte, ce serait un sentiment ridicule, mais j'étais profondément touchée et parfois quand même légèrement. Je me disais « Mais pourquoi nous aiment-ils tant ?» Et les professeurs de français, des femmes très souvent, mais des journalistes, mais des historiens, étaient vraiment contents, et des étudiants qui ont envie d'exercer leur français. Donc tout cela était fait que les contacts avec les Russes sont profonds très vite.
D'ailleurs, vous pointez ce manque, disons cette chaleur humaine qu'on ne retrouve pas ici, dans cette partie de l'Europe, en France par exemple.
Il y a beaucoup d'hypothèses pour ça. Est-ce que c'est un reste de l'ancienne âme russe ? Je ne sais pas.
Vous dites que vous n'y croyez pas,
Pas trop, parce que ça, je n'aime pas trop essentialiser. C'est toujours la même chose. Ça fait partie vraiment des bases, le chemin que j'essaie de tracer dans la vie. Mais il me semble que les Russes sont encore rattachés à travers le fait qu'ils ont été hors du monde pendant la période soviétique, à travers le fait qu'ils ont énormément souffert aussi. Ils sont encore rattachés à d'anciennes formes du monde, de la vie.
De solidarité.
De solidarité, de rapport. Quand on quitte quelqu'un, on pleure assez facilement.
C'est ce que vous dites.
Pourquoi on pleure ? Pas par sentimentalisme, mais parce que dans les rencontres humaines, il y a quelque chose d'intensément fragile, auquel les Russes sont intensément sensibles. Ils savent qu'on s'est rencontrés, qu'on prenait à travers les mots qu'on partage, et qu'on va se quitter, et c'est pour toujours, on ne se reverra pas. Donc, il y a quelque chose qui ressemble, à mes yeux, je ne suis pas en train d'idéaliser le passé, loin de là. Il y a beaucoup de choses dures et cruelles dans le passé. Mais dans mon enfance, dans la campagne où j'étais près d'Angers, j'ai pu connaître des gens, des vignerons, des femmes âgées. Le dernier d'entre eux est mort à 102 ans l'année dernière. Et si j'ose dire, c'était un Russe. C'est-à-dire que son rapport avec les autres, son calme, sa finesse, son rapport avec le temps qui passe, avec la terre, était très proche de ce qu'on peut trouver encore dans beaucoup de pays du monde lorsque les hommes ne sont pas trop bousculés par la modernité. Ça ne veut pas dire que je regrette le temps où mon arrière-grand-mère allait chercher l'eau à la fontaine du village. Je préférerais qu'elle ait eu l'eau sur son évier.
Au cours de ce voyage, vous parlez d'ailleurs des paysans russes et de leur disparition là aussi.
Oui.
Alors ça, c'est par rapport aux autres voyages que vous avez faits précédemment. Mais c'est aussi un monde qui disparaît. Michel
oui.
Serre en parle, enfin, on le sait. Mais là, vous reprenez cette évolution, justement, sous quel angle? Puisque vous êtes en train d'expliquer là qu'il y a une humanité, évidemment, dans le monde paysan qui a forgé toute l'Europe. Hein, et l'Europe avec vous, on va voir que c'est justement pas forcément la définition géographique à laquelle on peut croire ou prétendre. Donc, ces campagnes russes, là, sont en pleine évolution pour vous.
Elles sont en pleine évolution. La Sibérie elle-même est un territoire gigantesque. On m'a dit à un moment que le cadastre n'était pas encore établi totalement. Nous étions plutôt au sud de la Sibérie, ce qui ne veut pas dire une mer chaude, hein, ce qui veut dire que l'hiver, il fait moins 40. Mais c'est le sud de la Sibérie. Le Grand Nord, nous n'y sommes pas allés. On peut faire quelques voyages dans le Grand Nord, mais le Transsibérien suit le sud de la Sibérie. Et les villages sont vraiment peu peuplés et très souvent de femmes âgées. Et personne ne songe vraiment à redonner vie à ces villages. Il y a quelques écologistes ou quelques jeunes qui essaient de s'établir dans ces villages, mais la majorité de ces villages est en train de mourir. Et là, un voyage que je voudrais vraiment faire maintenant, c'est un voyage dans les villages russes, dans les villages au plus profond de la Russie, et je voudrais vraiment
le faire. Dans quelle campagne iriez-vous ?
Alors,
c'est tellement vaste.
Je pense qu'on peut déjà très vite. Il faut s'éloigner de Moscou et de ses environs, quoique j'aime beaucoup aussi y aller, mais il faut s'éloigner, il faut aller vers l'est et puis essayer d'entrer là où les villages sont le moins en communication avec le reste du monde. C'est pour ça que je cite une anecdote, parce qu'il ne faut pas être tout le temps dans le tragique ou dans les larmes. C'est l'anecdote d'un film que j'avais beaucoup aimé sur les villages russes, où on voit les vieilles femmes qui s'arment d'un gourdin le jour où elles reçoivent leur retraite. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un fils qui ne fait rien, qui boit comme un trou, et qui, le jour où la vieille mère reçoit sa retraite, va essayer de venir la lui voler. Alors elle l'attend de pied ferme, avec un gourdin derrière la porte. Bon. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas seulement dans le sentimentalisme, elles sont solides. Mais si on lit les livres d'ailleurs qui ont été publiés après l'horreur qui s'est passée en Ukraine, à Tchernobyl, les vieilles femmes qui sont dans les villages...
Elles sont restées.
Mais elles sont restées.
Elles sont restées.
Elles ont un souffle, une humanité, une profondeur extraordinaire.
Ça, c'est ressourçant, ça. C'est assez positif.
Oui, oui. Ce que je voudrais, c'est que vont-elles transmettre? Que peuvent-elles transmettre? À qui le transmettra-t-on? Je ne désespère pas, parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui agitent la Russie. On parle surtout, bien évidemment, d'une demande de démocratie, surtout à Moscou, plus on s'éloigne. Mais je crois qu'il y a une demande aussi de retrouver une continuité avec la Russie. Et ça aussi, j'aimerais rencontrer des jeunes qui ont envie d'aller vers ces villages, qui ont envie de comprendre comment étaient ceux qui vivaient. Et là encore, ça ne veut pas dire que je ne veux pas de la modernité. J'aime les grandes villes, j'aime la modernité, mais il y a des valeurs là qu'il ne faut pas perdre.
Est-ce que les jeunes ou les Russes que vous avez rencontrés, quelle image de l'Europe portaient-ils ? Ou quel était leur avis sur l'Europe ?
Il est clair que depuis 1991, donc la fin de l'Union soviétique, à travers des périodes successives, la Russie prend de plein fouet la modernité, et pas forcément dans ce qu'elle a de meilleur. Mais c'était déjà le cas avant. Et comme disait Solzhenitsyn, le rideau de fer est tiré presque jusqu'en bas, mais il coule quand même par en dessous toutes sortes de choses pas très nettes qui viennent de l'Occident. Alors évidemment, on voit bien dans quel esprit il le disait. Mais il n'est pas aussi conservateur et traditionnaliste qu'on le dit. Il sait aussi la valeur de ce que portait le peuple russe. Aujourd'hui, les jeunes sont, comme les jeunes de tous les pays, fascinés par la technologie, l'Internet, les réseaux sociaux.
Y a-t-il une préoccupation commune européenne ?
Ce que j'ai pu sentir, et c'est compliqué en un bref voyage tout de même, ce que j'ai pu sentir, c'est qu'ils ne sont pas prêts entièrement à brader la Russie pour avoir un iPod. Mais avoir un iPod, aller sur l'Internet, ça c'est certain que c'est une demande. Mais ça a commencé avant même déjà la chute de l'Union soviétique, quand il y avait un appel vers la modernité. Ce que je crois, c'est que le sentiment que la Russie existe et qu'elle doit continuer d'exister très profond chez eux.
Vous avez senti ce patriotisme,
j'ai senti à tout le
ce
monde,
nationalisme
voilà, beaucoup plus. Chez nous, en France, ce sont des qualités, si j'ose dire, qui sont considérées comme plutôt négatives.
Oui.
En Russie, le discours patriotique ou nationaliste n'est pas forcément celui d'une bande de jeunes idiots au crâne rasé et antisémites. Alors, cela existe aussi, mais d'autres gens infiniment plus sympathiques portent ce discours-là sur la Russie. Ils le portent.
Et au cours de ce voyage, vous avez été intéressé par toutes les villes tatares,
oui,
j'allais
oui.
dire. Et après, plus loin, de cette mosaïque religieuse, quand même communautaire, qui existe en Russie, entre les groupes orthodoxes et puis les groupes musulmans. Vous y êtes intéressé parce que vous avez toujours défendu cette idée de la laïcité. Qu'est-ce que vous avez perçu de cette laïcité, entre guillemets, à la russe d'aujourd'hui, en 2011?
Il est clair qu'avant 1991, l'Union soviétique était un mosaïque de peuples qui comportait beaucoup plus de républiques musulmanes, d'Asie centrale, etc., qu'aujourd'hui, puisque maintenant, elles ne font plus partie de la Fédération de Russie, mais elles sont à l'extérieur. Donc c'est déjà un très grand changement. Mais l'État, enfin la République, dans laquelle, il y en a deux, dans laquelle on voit, pas la mosaïque, mais disons la multiplicité des peuplements, le premier, c'est le Tatarstan, c'est-à-dire la République de Kazan. Mais Kazan est avant l'Oural, donc on n'est pas encore...
On n'a pas encore franchi...
Voilà. Mais il faut bien voir quand même
classique, on va dire.
Que c'est l'endroit où se sont affrontés les orthodoxes et les Tatars. Ivan le Terrible est venu en 1552 vaincre les hordes Tatars, comme on apprend dans les manuels scolaires, dans cette ville de Kazan. Et au cours des siècles qui ont suivi, ça a été le point de départ vers l'Est, d'une avancée constante des Russes, c'est-à-dire des orthodoxes, peuple orthodoxe, quand ils se parlent entre eux, dans les romans on le voit bien, quand un paysan rencontre un autre, il lui dit peuple orthodoxe, ou lui dit, d'ailleurs le mot chrétien veut dire paysan en russe, donc tout cela quand même est très mêlé. Et depuis 91, un grand effort a été fait pour redonner, en particulier à Kazan où les Tatars sont nombreux, toute sa place et toute sa valeur à la culture tatare. Et on a redécouvert qu'elle était beaucoup plus ancienne qu'on le disait, mais les Tatars étaient cochers, cuisiniers, domestiques, n'accédaient pas au monde culturel. Il ne faut pas oublier quand même que Tolstoï est allé faire ses études supérieures à Kazan, il a fait du russe et du tatare.
Oui.
Donc il y avait un intérêt, c'est certain. On redécouvre des poètes comme le poète Tukai, qui est un poète qu'on a redécouvert au début du siècle dernier, qui est mort très jeune de tuberculose, et qui n'était pas du tout pour un communautarisme tatar anti-orthodoxe, mais pour un réveil légitime de la culture tatar, mais dans l'échange et l'unité et l'union avec les orthodoxes.
Ce réveil que vous constatez, se confronte-t-il à des problèmes, justement, à des affrontements possibles ou pas? Avez-vous senti
je
des tensions
rien, je n'ai pas senti, mais il faudrait y vivre davantage. Il est clair que le Tatarstan est une sorte de vitrine de la coexistence des peuples. 45% de la population est tatare, on vous montre des musées, des objets, des ouvrages. On vous parle beaucoup de la grande poétesse Anna Akhmatova, qui dit que dont la grand-mère était tatare, et la grand-mère disait « je n'aurais jamais dû être baptisée ». On n'en parlait pas du tout. Akhmatova était très mal vue à l'époque soviétique, mais on ne parlait pas du tout de ses origines tatares, pas du tout. Donc, et comble des efforts, si j'ose dire, au sein du Kremlin de Kazan, puisque Kremlin veut dire enceinte fortifiée, au centre de l'enceinte, il y a la muraille construite à l'époque d'Ivan le Terrible, avec ses forts carrés, il y a une église orthodoxe et une mosquée. Je dois dire qu'elle n'est pas d'une beauté extraordinaire, qu'elle est assez grande, et même presque trop grande. Mais c'est évidemment le signe de vouloir montrer qu'on existe, et bon. Mais... est-ce qu'il faudrait approfondir? On rencontrerait peut-être des cercles tatars qui considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment représentés, etc. Il n'y a pas d'indépendantisme tatar à Kazan, ça c'est clair. Alors l'autre république, c'est tout à fait à l'autre bout. C'est-à-dire presque à 2 jours de train de Vladivostok, 2 ou 3 jours, c'est la république de Bouriati qui, elle, est à demi-mongole.
Je vous posais la question tout à l'heure de savoir comment les jeunes Russes que vous aviez rencontrés percevaient l'Europe. Vous, votre vision de l'Europe a par contre vraiment non pas changé, mais elle, pratiquement vous avez assimilé le transsibérien à un chasse-neige
qui
pousse
poussait,
devant lui l'Europe.
Qui tirait c'est une belle formule. Avec lui de l'Europe, oui. Parce que j'étais restée, comme tout le monde, sur la formule de Général de Gaulle, l'Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural. Et je dois dire qu'à plusieurs reprises, en voyageant, quand par exemple sur la petite carte dans les avions, on voit s'afficher les continents, À un moment, on voit une petite arête marron, c'est l'Oural, et l'avion passait de l'autre côté. Et je me disais, sans penser, ouf, non. Mais je me disais, je suis rentrée chez moi, me voici en Europe. Et maintenant, j'ai compris que non. L'Europe ne s'arrête pas à l'Oural. Elle ne s'arrête pas à l'Oural parce que cette conquête dont je parlais tout à l'heure, qui était la conquête des Russes orthodoxes sur l'Asie, s'est poursuivie, siècle après siècle, sous la forme d'une conquête, dans l'Oural, de l'établissement d'une importante industrie, et ensuite, de point en point, par des établissements cosaques qui créaient des sortes de colonies militaires, après des colonies de peuplement, mais aussi des colonies pénitentiaires. Et comme dit un jeune russe de ma connaissance, la Sibérie est notre Australie, elle est peuplée de convicts. Et c'est vrai que pendant des siècles, ça n'a pas commencé avec le goulag, pendant des siècles, depuis Ivan le Terrible, en passant par Pierre le Grand, par la Grande Catherine, etc.
On expédiait, voyage, hein, il y a...
on expédiait tout le long des condamnés. Et quelle expédition ? Ceux qui partaient à pied dans une espèce de troupe hommes et femmes, des enfants naissaient en route. On partait et on arrivait avec un enfant qui avait un an.
La vie s'organisait quand même dans ces conditions extrêmes. Alors cette Sibérie que vous évoquez, vous avez donné le titre russe nom de la Sibérie, Sibir. Dans ce récit de voyage, vous dites « Sibir, Sibir, chuchotent les roues du train ».
Tout d'un coup, j'ai compris que Sibir, c'était à la fois cet immense espace, grand comme je ne sais plus combien, 50 francs la France, j'ai oublié, les chiffres sont dans mon livre, et c'est au départ un tout petit royaume qui va être conquis après la victoire d'Ivan le Terrible en 1552 à Kazan. Un tout petit royaume qui s'appelle Sibir. Et cette conquête, symboliquement, va s'étendre jusqu'au Pacifique, puisque c'est en 1922 que les bolcheviks arriveront, l'expédition bolchevique arrivera à Vladivostok en 1922, 5 ans après le début de la Révolution, après avoir tout le long de son passage écrasé les restes des armées blanches, jusque dans le Baïkal et au-delà. Donc c'est une conquête, c'est la Russie, et je me suis dit, au fond, j'étais ennuyée en un sens, je me disais, mais est-ce que ça veut dire que je ne veux que de l'Europe ? C'est pas vrai, je vais en Chine, je suis allée en Inde, je suis allée dans des pays qui n'étaient pas du tout européens, et j'étais très contente d'y être. Et je me disais, donc, est-ce que c'est par désir, par ethnocentrisme, par européocentrisme ? Mais je voyais bien les faits. L'Europe, bien sûr, le continent est de plus en plus asiatique, mais la civilisation demeure européenne. Dans ses aspects négatifs, conquête, colonisation, destruction des populations indigènes, comme les Indiens d'Amérique du Nord, colonies pénitentiaires, et aussi arriver avec l'Europe d'un certain, des idées que j'appellerais l'idée libérale, l'idée, vous savez, l'idée d'individu, l'individualisme en Russie et en Sibérie, pour les Russes, ça a été une conquête, et qui est lente, et peut-être que la démocratie est encore lente à arriver, parce que les Russes ne l'ont pas vraiment compris, mais pour moi, la démocratie, c'est la Grèce. L'arrivée de la démocratie, c'est l'arrivée aussi d'une idée européenne, la laïcité, c'est-à-dire le respect des religions, mais leur séparation avec le pouvoir d'État. Parmi... Ce qui n'est pas du tout le cas en Russie, parce que l'orthodoxie est totalement liée au pouvoir.
Au pouvoir.
L'Église est autocéphale.
Cette Russie asiatique dont on tente là, de faire le portrait, mais mieux vaut quand même lire le livre. Hein. Et vraiment, même si l'émission nous permet d'aborder beaucoup de thèmes, la lecture des 300 pages est un véritable voyage pour celui qui vous lit. La Russie est-elle nécessairement, vous veniez de parler des droits de l'individu un petit peu, là, est-elle nécessairement synonyme de despotisme ? Parce que vous vous posez cette question, justement, dans ce long voyage oriental. Est-ce qu'il y a un despotisme typiquement oriental ? Est-ce que c'est là un cliché ? Vous vous interrogez.
C'est certain. Et on voit bien que si on relit la littérature russe, les Russes se sont interrogés toujours là-dessus. Pourquoi l'Oural a-t-il été la limite de l'Europe ? Pourquoi ? Parce que Pierre le Grand, voulant européaniser la Russie, a décidé d'en mettre au moins un bout en Europe. Puisque pour la plupart de ses contemporains, c'est-à-dire fin du XVIIe, début du XVIIIe, la Russie, c'est l'Asie. Et quand Napoléon, lui, va débarquer, il a l'impression de débarquer au cœur de l'Asie, mais comme il mélange un peu tout, quand il voit Saint-Basile le Bienheureux, cette église typiquement russe, il dit « la mosquée ». Donc, franchement, il mélange un peu tout. Mais Pierre le Grand dit au moins jusqu'à l'Oural, ce sera de l'Europe. Et c'est constant, l'idée que l'Europe doit progresser dans l'espace et aussi dans les têtes. J'ai cité un moment dans une nouvelle de Tchekhov où un marchand qui trouve que les chevaux sont pas à l'heure, les cochers sont ivres, etc. Il dit, et ça se dit en Europe. Dès que quelque chose va moins bien, c'est parce que c'est le reste de l'occupation par les Mongols ou de l'invasion des Tatars. Ce qui est très injuste, évidemment, à l'égard des civilisations asiatiques. Asie égale despotisme. Même chez Victor Hugo, quand il parle de la Russie, l'Asie, ça veut dire le despotisme. C'est-à-dire la domination, le servage, etc.
Y a-t-il un rapport du pouvoir au peuple plus fort ?
Très certainement. Mais qu'il y ait une mémoire...
En Russie ?
Tous les grands observateurs de la Russie, tous les grands historiens, dont Mme Karadankos, notent à quel point ce long séjour... ces siècles sous la domination de la Horde d'Or, enfin des Mongols, la Horde d'Or, des Tatars, a marqué de formes politiques qui ne sont pas des formes, disons, tellement libérales. Il faut être clair, c'est sûr.
Et Dominique Fernandez fait une hypothèse historique parlant de soumission probable, enfin, d'un esprit de soumission des oui. Russes à ces pouvoirs autocratiques. En fait.
Oui, bah, il faut quand même voir que le mot « liberté » n'a pas le sens qu'il a dans les langues européennes. Il va plutôt vers des règlements, anarchie ou licence. Et pendant des siècles, les paysans ont vécu tantôt dans l'état de servage, tantôt l'état des communautés rurales. Et quelqu'un comme Tchekhov, qui est vraiment un humaniste, véritablement, qui va jusqu'à Sakhaline, il fait le même trajet que nous, mais pas en transsibérien, lui, en traîneau. Eh bien, parfois, parle avec exaspération de l'esprit de soumission, de la brutalité, oui, de la dureté des conditions de vie, des hommes qui battent affreusement leurs femmes et qui ensuite vont boire ou qui ont déjà bu avant. Donc, il en parle beaucoup. Mais il dit ceci dans une nouvelle, il dit « Au cœur de l'homme le plus abruti par l'alcool, par la violence, la misère, il y a quelque chose qui est indéracinable, c'est la volonté de justice, le goût de justice. Et ce que supporte le moins bien, c'est une injustice. » Et ça, c'est très très profond, parce que ça donne une puissance énorme. Grande oppression, mais désir de justice.
Est-ce que au cours de ce voyage, vous avez remis un petit peu les pendules à l'heure dans votre tête sur vos adhésions de jeunesse au communisme ?
Non, mes pendules,
elles étaient déjà...
Oui, je ne fais que confirmer à chaque fois. Mais quand je le confirme, ce n'est pas avec la satisfaction égoïste qui serait « Ah, je m'en suis tiré », mais avec une double douleur. La douleur... Bon, d'y avoir succombé, ce n'est pas une douleur, parce qu'après tout, bon, on fait des expériences. Mais c'est surtout la douleur de devoir constater qu'un grand rêve s'était ouvert. Et je reviens tout le temps à ce poème.
Un monde qui disparaissait aussi.
D'Ossip Mandelstam qui dit « La splendide Adsaline », une des raisons pour lesquelles il va être sans cesse emprisonné avant d'être envoyé dans les camps et de mourir du typhus dans un train près de Vladivostok, il dit « Ce que tu as trahi, c'est cette splendide promesse faite au tiers-État. » Et moi, cette phrase-là me convient absolument. Le tiers-État, on lui a fait une splendide promesse, on allait le libérer de ses chaînes et on les a redoublées. Et très vite, entre le rêve, hélas, et la trahison du rêve, je crois que l'espace a été très court, malheureusement.
Tout au long du livre, il y a une formidable... manière de faire ressurgir le passé. C'est commun à vos deux livres, à votre livre Daniel Salnav, Sibir, et au Transsibérien, le livre de Dominique Fernandez. C'est presque mieux qu'un livre d'histoire. C'est-à-dire que là, c'est à travers le récit de voyage, c'est vrai qu'au fil des pages, vraiment, non seulement on rentre dans l'épaisseur de l'histoire russe, mais aussi à vous deux, dans votre érudition. Ouais. C'est un plaisir pour le lecteur.
Mais en même temps, c'est pas une érudition qui était entièrement acquise avant. Au fond, mon idée secrète, et ce que j'appellerais l'idée pédagogique du livre, mais à condition qu'on n'entende pas ça d'une manière qui soit ennuyeuse. Mais pour moi, c'est pas forcément ennuyeux, la pédagogie. L'idée pédagogique, c'est, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ignorais, et j'ai plus de questions que de réponses. Quand on voyage, on ouvre des questions, mais il faut, au retour, lire encore, pour faire arriver tout ce qui était impossible à faire surgir sur le moment. Donc, je connaissais déjà l'histoire de la Russie, j'y étais allée 6 fois, j'avais lu beaucoup sur la Russie, mais d'innombrables questions se posaient à chaque pas.
Et d'ailleurs, parfois, vous dites que vous n'avez pas suffisamment lu, mais en fait, oui. Vous avez bien lu,
oui,
déjà,
mais
vous avez bien préparé.
Je pourrais encore, et je continue d'ailleurs.
Est-ce qu'un voyage, c'est aussi une descente au plus profond de soi ? Personnellement, ce voyage-là, qu'est-ce que vous en tirez ? Cette fois-là, parce que vous
Je crois que je touche dans ce type de voyage. C'est certainement le plus profond et le plus émouvant que j'ai dû faire. Mais j'en ai fait d'autres. Quand j'ai écrit ce livre sur l'Inde, j'étais quand même dans un état aussi de grand bouleversement. Ce qui se passe dans ces voyages, c'est qu'on est arraché à un moi ordinaire, quotidien. On est arraché à tout cela, on est un peu hors de soi, pas au sens d'être en colère, pas du tout, mais on est hors de soi. On est intensément soi, on vit très intensément. Et bien évidemment, si j'étais seule sur un traîneau à traverser l'Arctique, peut-être que ça serait encore plus intense. Mais je ne le crois pas. Vous savez, je vais prendre une image très simple. Moi, j'habite près de la Bastille. Et en face de chez moi, il y a une maison qui a été construite dans les années 20 par un pharmacien qui faisait des pastilles Valda. Pendant des années, ça a senti la pastille Valda. Mais à l'emplacement de cette maison, auparavant, il y avait une chapelle. Madame de Sémigny en parle, parce que c'est là qu'on a fait l'office religieux pour la mort du Grand Turenne. Eh bien, c'est ça. Mais quand on vit dans la journée, on va faire les courses, on vit en étant en retard, on n'est pas tout le temps hissé par l'histoire. Or, l'histoire et le passé ne nous enferment pas, ils nous élèvent au-dessus de nous-mêmes. Et dans un voyage comme celui-là, c'était 24 heures sur 24 pendant 3 semaines.
Pour le lecteur aussi.
Merci.
Donc, exercice. Cas,
très beau compliment. Vous
non, mais c'est vrai, c'est très sincère. Est-ce que vous voudriez lire une partie ou un passage de Sibir ?
Ce sont les derniers jours, donc il y a un peu plus d'émotion encore. Longue journée dans le train, le temps, l'espace, je ne fais plus très bien la différence, se dilate à l'extrême, au long des 9 fuseaux horaires que nous traversons successivement, et le voyage finit par se transformer en une sorte d'expérience initiatique, d'où les bouffées d'angoisse du début, qui maintenant ont complètement disparu. C'est peut-être pour cette raison que tant de Russes s'imbibent à mort dès les premiers tours de roue. L'expression peut surprendre, elle n'est pourtant pas trop forte. Tout prend un air de nécessité. Placé sous une lumière qui en souligne les contours, les rend plus vifs, vous rend plus heureux. Les choses vous reviennent avec un visage neuf ou qu'on avait oublié. Vision triste ou gaie, il n'y a pas tellement de différence. Elles sont là. Un point, c'est tout. Les villages apparaissent, puis disparaissent. L'herbe est verte, les murs sont bleus. Les tombes s'enfoncent paisiblement dans un fouillis de verdure. Tout est bien. La végétation, régulière, fournie, jamais luxuriante, de ces grandes étendues, ne semble ni sauvage, ni cultivée. Elle couvre de grandes prairies où il n'y a personne, ni homme, ni bête. Soudain, 1, 2 jardins apparaissent, signe vital de la présence humaine, puis contre une palissade ou un mur de rondin, une vieille voiture qui semble encore utilisée, ou une petite isba, patte de poule, comme celle de la sorcière Baba Yaga. Ou bien est-ce une ruche ? Il faut bien redescendre, dans le temps, dans l'histoire. L'apparence répétitive, presque hors du temps de ces espaces désertés, dissimule l'âpre curiosité dont ils ont toujours fait l'objet.
Merci. Il y a eu de très belles pages sur Lénine.
La tête de Lénine.
Oui, oui, parce que je trouve que dans ces quelques lignes, vous dites beaucoup.
Alors la photo, c'est un ami journaliste qui était avec nous, qui l'a prise pour mettre l'échelle, pour que je sois au pied. Et j'ai osé dire « Lénine et moi ». Donc je m'interroge, 20 ans après la chute de l'URSS, les bouriates sont-ils plus bouriates que russes ou le contraire ? Ont-ils droit à la reconnaissance de leur religion ? Ils en ont deux, de leur langue, de leur tradition. Je n'en sais rien. Quand je débarque à Oulan-Houdé, en ce matin de juin 2010, mais suffit maintenant à l'endormir. Pourtant, au passage, notre hôtel est juste en face. La grosse tête de Lénine, haute de 8 mètres sur un socle, qui en fait à peu près le double. Comme il est encore que 4 heures du matin, je prends vite ma clé, je monte dans ma chambre, je ferme les rideaux et je me rendors. Cependant, dès mon réveil, je n'y tiens plus et je me précipite à la fenêtre. Est-elle aussi impressionnante que sur les photos ? Oui, et même davantage. Déjà sur les photos, ronde, massive, dominant tous les arbres et même les immeubles derrière, elle avait de quoi flanquer la frousse. Mais en vrai, comme disent les enfants, c'est infiniment pire. Cela dit, j'ai toujours éprouvé une terreur sacrée, une véritable panique à la vue de statues géantes, surtout fragmentées. Ça m'est arrivé lors d'un des premiers voyages à Rome, dans la cour du palais des conservateurs, devant le pied et la main géant de Constantin, pourtant bien inoffensif, j'ai été obligé de sortir. Le lendemain, je demande à Hugo de me photographier au pied du monument, moins pour attester que j'y étais que pour donner l'échelle. Lénine, on le voit de partout, même quand on lui tourne le dos. Son ombre fait un orbe menaçant sur le sol, malgré des arbres qu'on a vainement plantés autour, je suppose, après 91. Me revient une phrase de Brecht, justement à propos de Lénine. Il pensait dans la tête des autres, et dans sa tête, d'autres que lui pensaient. J'aime bien Brecht, mais je ne comprends pas comment j'ai pu, à une certaine époque, approuver cette phrase. L'idée fait horreur d'imaginer vos propres idées roulant dans ce métal creux et d'avoir dans sa propre tête les pensées de cette météorite de bronze. Météorite convient bien. Ce bloc Lénine, installé en 1970 sur la place centrale d'Oulan-Houdé pour le centenaire de sa naissance, est vraiment chu d'un désastre obscur. Le pire, c'est quand on l'a un peu oublié et que soudain, on voit la demi-sphère supérieure de cet énorme crâne surgir entre des arbres au-dessus d'un immeuble.
Merci Daniel Salnav de cette lecture. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura donné le goût de lire Sibir, parce que c'est un magnifique voyage.
Merci. Merci à vous. Merci infiniment.